Dudes, you guys are gonna go back in time.
It must be some kind of
five,
hot tub time machine.
4, 3, 2, 1.
Bonsoir chères auditrices et chers auditeurs, il est un peu plus de 20h, vous écoutez Radio Saint-Afrique et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de Classics Time Machine. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Il n'y a pas eu d'émission en août pour cause de farniente et si elle vous a manqué, ne vous inquiétez pas, nous allons faire de cette émission une bimensuelle en traitant les sujets du mois d'août et de septembre réunis. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Classics Time Machine, s'il y en a, cette émission est un voyage radio-temporel d'une heure à bord de mon invention, la seule et unique Classics Time Machine, conçue entièrement par moi, le Dr M, votre humble érudit de service, et nous survolerons en archives d'époque et en musique les grands événements de l'histoire des mois d'août et de septembre 1961 à 1997. Côté musique, le Dr M n'a pas oublié de vous gâter avec de véritables classics du rock, de la soul, d'électro et de la pop des 60s, bref, restez avec nous, bouclez votre ceinture, enlevez vos chaussures et laissez-vous guider car Classics Time Machine, ça commence maintenant et comme prévu, nous démarrons cette première partie d'émission en remontant le temps. Premier arrêt, août 1968.
Tout de suite un flash de dernière minute, les chars soviétiques sont à Prague, les troupes soviétiques, bulgares, polonaises, hongroises et est-allemandes ont envahi la Tchécoslovaquie cette nuit.
L'avenue Vinohradska est déjà remplie de chars. Du toit de la radio, on voit au moins 10 blindés qui avancent. Les gens essaient de placer des barricades pour couper l'accès de la radio aux envahisseurs. On entend un échange de coups de feu dans l'avenue. Soldat, tu es communiste? Rentre chez toi. Regarde ce que tu as fait de notre Prague. Barbares, Gestapo.
Ici Prague. Attention, nous venons de recevoir une déclaration du gouvernement tchécoslovaque. Le gouvernement a donné l'ordre au ministère des Affaires étrangères de protester contre la conduite des troupes d'occupation et contre leurs activités envers les organes du gouvernement. Nous continuerons nos émissions aussi longtemps que les circonstances le permettront.
C'est au petit matin du 21 août 1968 que les habitants de Prague, alors capitale de la Tchécoslovaquie, se réveillent en sursaut. Par leurs fenêtres, ils aperçoivent des colonnes de centaines de chars et de camions remplis de soldats qui vrombissent à travers la ville et en font trembler les murs. À la stupeur générale, ils réalisent très vite que ces blindés et ces troupes ne sont pas tchécoslovaques, mais bel et bien russes en majorité et polonaises, hongroises ou est-allemandes. Le pouvoir en URSS vient en effet de décider de mettre un terme par la force au fameux « Printemps de Prague », nom qui fut donné au mouvement réformateur tant attendu dans une Tchécoslovaquie enfermée depuis 1945 derrière le rideau de fer et sous surveillance directe de l'œil de Moscou. Amorcé en janvier 1968 sous l'impulsion du nouveau président communiste Alexander Dubček, qui souhaite la création, selon ses termes, d'un socialisme à visage humain, de très attendues réformes libertaires sont enclenchées, suscitant l'enthousiasme du peuple. Il décrète la liberté de la presse, de réunion, de circulation et autorise les partis qui furent interdits sous ses prédécesseurs. Il commence également à se rapprocher diplomatiquement des pays de l'Ouest, tout en affirmant pourtant que la Tchécoslovaquie reste un pays communiste allié de l'URSS. En ce printemps 1968, la société tchécoslovaque change, la presse se diversifie, les citoyens s'emparent du débat public et un vent de liberté souffle sur le pays. Mais à Moscou, au Kremlin, on ne voit pas du tout ce vent de réforme d'un bon œil. Le secrétaire du Parti communiste, Léonid Brezhnev, craint que ce modèle ne se pérennise et s'étende aux pays voisins de la Tchécoslovaquie. Or, il refuse de céder ne serait-ce qu'un centimètre du contrôle total que l'URSS exerce sur ses états satellites dans ce contexte de guerre froide. Brezhnev est un partisan de la ligne dure soviétique. N'oublions pas qu'il a été placé à son poste par le bureau politique pour remplacer Nikita Khrouchtchev en 1961, qui fut limogé car jugé trop passif face à l'impérialisme américain. En concertation avec ses alliés hongrois, polonais et surtout est-allemands, qui furent les plus véhéments envers le régime de Dubček, il décide d'écraser par la force le printemps de Prague. En quelques heures et en pleine nuit, ce sont 24 divisions, soit 400 000 soldats qui envahissent la Tchécoslovaquie de toutes parts et prennent le contrôle des villes, des ponts, de la radio et des bâtiments officiels. La population de Prague improvise alors des barricades dans les rues, les Pragois montent sur les chars pour convaincre les troupes de fraterniser. Dans les premières heures, tout se passe dans une ambiance tendue, mais courtoise et sans heurts. Informé du ralentissement des troupes par la foudre de Prague, Brezhnev tape du poing sur la table. Les troupes qui n'obéiront pas immédiatement aux ordres de prendre la ville seront jugées pour trahison. Dès lors, le ton change, les tanks forcent le passage et tirent dans la foule. Afin d'éviter un bain de sang, Alexander Dubček lui-même appelle le peuple par la radio à ne pas résister et à lever les barricades. Se sentant impuissants et abandonnés par les autorités, les Pragois doivent assister, amers, à la démonstration de force soviétique et à la fin de leurs espoirs de liberté. L'écrasement du printemps de Prague aura fait une centaine de morts et quelques milliers de prisonniers politiques. La condamnation de l'invasion est internationale, du moins dans les pays occidentaux ou non alignés. La répression poussera sur le chemin de l'exode quelques 400 000 Tchécoslovaques transitant par les ambassades de l'Ouest pour fuir leur pays. Alexander Dubček est destitué moins d'un an plus tard et est envoyé comme ambassadeur loin en Turquie. Avec la fin du printemps de Prague, les Tchécoslovaques devront attendre encore 30 années sous la coupe de Moscou avant de pouvoir enfin s'autodéterminer et arriver à s'extirper du rideau de fer. C'était la ravissante et séduisante Françoise Hardy qui, en 1968, nous offrait ce titre magnifique « Comment te dire adieu », composé bien sûr par Serge Gainsbourg.
Berlin, que partageait une ligne officielle mais idéale, vient de voir tomber entre ces deux zones le rideau de fer. Ce matin-là, Berlin s'est éveillé au bruit des marteaux-piqueurs qui trouaient l'asphalte. Dans la nuit, le gouvernement de Pankow, pour enrayer l'hémorragie des populations vers l'Allemagne de l'Ouest, qui, en 10 ans, lui avait enlevé 2 millions d'hommes, avait décrété la fermeture des communications entre les deux zones. Et sur 40 km de longueur, ces 40 km par lesquels on pouvait encore choisir la liberté, la barrière s'établissait. Rue barrée, pont barré, métro arrêté. Il ne restait sur ces 40 km que 18 points de passage où le contrôle était sévère. L'Allemagne de l'Est se cadenassait.
Die Verbindung der feindlichen Tätigkeit der revanchistischen und militaristischen Kräfte Westdeutschlands und Westberlins wird eine solche Kontrolle an den Grenzen der Deutschen Demokratischen Republik, wie sie an den Grenzen jedes souveränen Staates üblich.
Il pouvait voir à la porte de Brandebourg, symbole de la séparation des deux Berlins, les chars des Vopo prendre position. Un authentique rideau de fer isolait maintenant l'Allemagne de l'Est.
On avait déjà abordé dans le premier numéro de cette émission l'année passée en novembre la chute du mur de Berlin. Eh bien aujourd'hui, nous allons évoquer sa construction dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Au tout début des années 60, Berlin est divisé en quatre zones d'occupation par les troupes alliées ayant contribué à la chute du régime nazi en 1945. La France, le Royaume-Uni et les USA se partagent trois secteurs à l'ouest et l'URSS occupe la partie est de la ville. Lorsque les tensions de la guerre froide se font croissantes, une large partie de la population de Berlin-Est, sous domination soviétique, commence à se réfugier à l'ouest, aux grandes dames de Moscou qui tentent de constituer un bloc communiste face aux puissances occidentales. Cet exode quotidien de milliers de Berlinois fait assez mauvaise figure et le gouvernement est-allemand de Walter Ulbricht décrète donc en août 1961 la construction d'un rideau de barbelés le long de la frontière des secteurs occidentaux et russes. Le 12 août au soir, les équipes de construction se rendent en secret sur place et dès la nuit tombée, ils se mettent au travail sous la protection de la police et de soldats armés. La plupart des Berlinois de l'Est sont alors dans leur lit et ne découvrent que le lendemain le sort qui leur a été fait dans la nuit. Un mur de béton encore frais, d'une hauteur limitée, à peine 1m50, a été dressé durant leur sommeil le long de la frontière et les points de passage sont hérissés de fils barbelés, devant lesquels campent, impassibles, des soldats avec des chiens. Ceux qui s'approchent des points de passage ou du mur sont sommés de quitter les lieux sans ménagement. La population comprend alors qu'elle est prise au piège entre ses propres murs et la consternation fait vite place à la résignation ou à la panique. Des milliers de familles sont en fait séparées du jour au lendemain et dans les jours qui suivent, de nombreux Est-Allemands franchissent au péril de leur vie les barbelés, souvent sous les tirs des gardes frontières de la RDA. Certains se jettent par les fenêtres des bâtiments dont une façade donne encore sur l'ouest et ces bâtiments seront par la suite rasés en agrandissant et en perfectionnant le mur qu'on dote d'une zone de vide, un véritable no man's land d'une centaine de mètres de large où les soldats ont pour ordre de tirer sur tous ceux qui s'y trouvent. Un deuxième mur intérieur est bâti le long du premier et leur hauteur commune est portée à près de 4 mètres. Les barbelés sont électrifiés, les miradors sont érigés, des mines antipersonnelles sont enfouies. Berlin-Est devient une véritable prison à ciel ouvert, cernée de murs infranchissables. Et de 1961 à 1989, 2000 Berlinois de l'Est tomberont sous les balles tirées depuis les miradors le long du mur. La plus jeune de ces victimes était un enfant de 10 ans. 75 000 personnes seront emprisonnées pour avoir tenté de franchir ce mur de la honte. Et il faudra attendre le 9 novembre 1989 pour que le Berlinois de l'Est se révolte et dans un élan massif et commun fasse tomber le mur de Berlin. En 1961, The Marquis sur Classics Time Machine, c'était leur tube Last Night.
Good evening. President Nixon stunned the country today by admitting that he held back evidence from the House Judiciary Committee keeping it a secret from his lawyers and not disclosing it in public statements. The news has caused a storm in Washington, and some of Mr. Nixon's most loyal supporters are calling for his resignation.
Le 9 mai 1974, la commission tient sa première réunion pour étudier la procédure de destitution. Le président sait donc que la vérité va éclater et qu'elle va lui être fatale. Aussi, le 5 août, dans une déclaration remise à la presse, reconnaît-il qu'il a menti, qu'il a abusé la justice et qu'il a fait pression sur des organismes fédéraux pour étouffer l'affaire. Le scandale est énorme, on réclame de tous côtés sa démission. Le 6 août, il prend la décision de quitter le pouvoir pour éviter un procès infamant.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. And so we leave with high hopes, in good spirit, and with deep humility, and with very much gratefulness in our hearts.
Le 9 août 1974, le président des États-Unis Richard Nixon annonce à la télévision son intention de démissionner de ses fonctions. Dans ce pays, l'information ne surprend personne car le sort du président Nixon était depuis plusieurs mois sur la sellette à la suite d'un scandale politico-judiciaire jamais vu, l'affaire du Watergate. Tout commence 2 ans plus tôt, en juin 1972, lorsque la police de Washington, capitale des États-Unis, arrête en flagrant délit 5 cambrioleurs qui s'étaient introduits au Watergate. C'est un grand complexe d'immeubles de bureaux d'affaires avec un hôtel de luxe, mais c'est aussi là que le parti d'opposition au président, le Parti démocrate, a son siège. Ce qui intrigue les policiers, c'est que les cambrioleurs ne semblent avoir rien volé, mais sont arrêtés avec des grands sacs contenant du matériel d'écoute, des micros et environ 100 000 dollars en cash. Informée, la presse commence à s'emparer de l'affaire. Bizarre ces cambrioleurs aux allures d'espions qui forcent les bureaux du Parti démocrate. Comme Larsen, il y a plus lucratif qu'un bureau de parti. En réalité, deux journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, comprennent très vite que ce cambriolage couvre en fait une affaire d'État. Toutes les pistes et les recoupements semblent venir de la même direction, la Maison Blanche. Il manque de preuves, mais une aide inattendue va leur prêter main forte. Un homme mystérieux, très infiltré à la Maison Blanche et se faisant nommer Deep Throat, gorge profonde, leur fournit jour après jour des documents confidentiels, des enregistrements, des témoins qui enfoncent jour après jour la crédibilité du président et de son entourage. Ces cambrioleurs étaient en réalité des agents de la CIA, payés par le président aux frais du contribuable pour espionner et placer sur écoute l'opposition. Si l'affaire en était restée là, l'orage serait passé et Nixon aurait su se tirer d'affaire. Mais le président, que les Américains surnomment Tricky Dick, Richard le Sournois si on pourrait dire, s'est compromis tout seul. Gorge Profonde possède des enregistrements sonores sur lesquels le président Nixon lui-même donne des ordres à son équipe d'approcher le patron du FBI et de la police afin de les faire taire, soit par la corruption, soit par la menace. Dans la foulée, Gorge Profonde fournit à Woodward et Bernstein des documents détaillés sur le financement de ces opérations d'étouffement de l'affaire. Un à un, et révélation après révélation, les soutiens du président font défection et le Sénat vote la même année, la levée d'immunité présidentielle. La Cour suprême des USA oblige les collaborateurs du président à lui remettre les enregistrements compromettants qui sont appelés « the smoking gun tapes », les enregistrements de la main dans le sac, pour traduire vite fait. Inculpé de corruption, d'entrave à la justice, de pression sur témoins, de détournement de fonds publics, d'abus de pouvoir, Nixon est terrassé. Se sachant lâché de toutes parts, ses amis ayant quitté le navire, il démissionne donc le 9 août 1974. Depuis ce jour, la presse américaine, sans qui rien de cette affaire n'aurait fuité, est considérée dans le pays comme le quatrième pouvoir politique du pays. We'll be right back. Un groupe complètement déjanté, formé autour de deux frères androgynes, l'un en pantalon rose bonbon moulant et cheveux longs, l'autre en chemise étriquée avec une petite moustache à la Hitler, Russell et Ron Mayle formaient le groupe glam rock californien Sparks, avec issu de l'album Kimono My House, leur titre phare de 1974, This Town Ain't Big Enough for the Both of Us.
Madame, Monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire saoudien Dodi Al-Fayed, mort lui aussi. L'accident a eu lieu dans le tunnel du pont de l'Alma vers minuit. Le chauffeur a perdu le contrôle de la Mercedes qui roulait, semble-t-il, à très très vive allure.
Des tôles déchiquetées, le moteur broyé. L'état de la voiture témoigne de la violence extrême du choc. Il est 0h30 lorsque Lady Diana quitte le restaurant de l'hôtel Ritz en compagnie de son ami Dodi Al-Fayed. Mais la voiture est poursuivie par plusieurs photographes à moto. Elle pénètre dans le tunnel de l'Alma, en plein Paris, à 100-150 km/h, peut-être plus. Le chauffeur perd le contrôle et la voiture percute très violemment les parois du tunnel. Lorsque la police et les secours arrivent sur les lieux, Dodi Al-Fayed est déjà décédé, tout comme le chauffeur. La princesse de Galles, elle, doit être désincarcérée. L'opération prend plus d'une heure avant le transfert à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Mais à 5h50, le professeur Rioux, patron de l'équipe de réanimation, convoque la presse.
Une thoracotomie d'urgence a mis en évidence une plaie importante de la veine pulmonaire gauche. Malgré la fermeture de cette plaie et un massage cardiaque externe puis interne de 2 heures, aucune efficacité circulatoire n'a pu être rétablie et le décès a été constaté à 4 heures du matin.
Dans la nuit du 31 août 1997, prend fin l'un des destins les plus médiatisés du XXe siècle lorsque meurt à Paris la princesse de Galles, Diana Frances Spencer, dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma. Alors que sa Mercedes quittait l'hôtel du Ritz et était pourchassée par plusieurs paparazzi en moto, le véhicule était projeté à vive allure contre un des piliers du tunnel du pont parisien. Diana, surnommée Lady Di par la presse association, qui avait fait pendant des années ses choux gras sur ses frasques conjugales et extra-conjugales avec son mari, le prince héritier de la couronne britannique Charles, avait surtout séduit les sujets du Royaume-Uni par sa simplicité et son tempérament doux et son origine sociale modeste. Jeune femme séduisante et discrète, elle avait su gagner les cœurs dans une famille royale étriquée et, il faut le dire, très conservatrice. Elle fut de loin le membre préféré de cette famille auprès du grand public et sa mort retentit dans le royaume comme un coup de tonnerre dans un ciel pourtant pas si serein que ça. Avec des révélations scandaleuses en chaîne et son mode de vie libéré, elle s'était attiré les foudres de la famille royale jusqu'à divorcer, shocking, du prince de Galles après une procédure ultra médiatisée et particulièrement sale. Elle en avait conservé néanmoins l'affection et l'estime du peuple britannique et ses obsèques nationales restent comme l'un des moments les plus douloureux de l'histoire du Royaume-Uni du XXe siècle. La princesse des cœurs est morte à Paris auprès de son amant à l'âge de 36 ans à peine. Un titre que vous n'avez probablement plus entendu depuis 1997 et qui fit pourtant un carton à l'époque, c'était White Town avec le single Your Woman, et c'était il y a 21 ans déjà. Boom!
Classics Time Machine, les Saint-Africains parlent tout français.
Et voilà pour les événements d'août, passons maintenant aux événements historiques du mois de septembre. Et on commence en musique puisque le 26 septembre 1969 paraît le 11e album du groupe britannique légendaire The Beatles, formé par John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr, Abbey Road. Il s'agit là de leur deuxième album le plus vendu et c'est un véritable bijou musical que chaque amateur de vinyle doit s'enorgueillir de posséder dans sa discothèque, non seulement au vu des titres magistraux qu'il contient, mais aussi en raison de sa couverture musicale mythique, où les membres du groupe sont photographiés traversant en file indienne le passage piéton devant le fameux studio d'enregistrement d'où l'album tient son nom. Avec 30 millions d'exemplaires vendus dans le monde, Abbey Road, excusez-moi j'ai perdu ma feuille, est devenu l'un des monuments du rock des années 1960, et ce malgré le climat délétère entre le cerveau du groupe Lennon et McCartney et Harrison et Ringo Starr qui se sentent écartés du processus créatif du groupe. La créativité des Beatles est néanmoins à son apogée depuis leur album Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, et Abbey Road fait figure de dernier grand album du groupe de par sa variété et son format peu habituel. Alors on va s'écouter un des très grands chefs-d'œuvre de cet album justement, avec cet excellent titre Come Together qui ouvre cet album. Pour la petite histoire, il faut savoir que ce titre à l'origine était une chanson de campagne politique que Lennon avait composée pour Timothy Leary, qui briguait le poste de gouverneur de Californie et qui, dans son programme, proposait entre autres la légalisation du LSD, ce qui explique en partie le côté incompréhensible des paroles peut-être. 1969, The Beatles Come Together, vous écoutez Classics Time Machine avec le Dr M aux commandes.
Together, right Good afternoon. I'm Jim McKay speaking to you live just outside the Olympic Village in Munich, West Germany. The peace of what have been called the Serene Olympics was shattered just before dawn this morning, about 5 o'clock, when Arab terrorists armed with submachine guns, faces blackened, climbed the fence and immediately killed one man, Moshe Weinberg, a coach, 2 shots in the head, 1 in the stomach. And the latest report is that one more has been killed.
Oui, voici le tout premier reportage que nous venons de recevoir de Munich. Ce qui est certain, c'est que vers 5h30-6h ce matin, un commando palestinien, fort de 5 à 10 hommes, a pénétré dans le village olympique en escaladant les grillages et les barrières. Vers 6h, des coups de feu éclataient, les Palestiniens pénétraient mitraillettes au poing dans les dortoirs et tuaient un Israélien et en blessaient grièvement un autre. Ce blessé serait mort en fin de matinée. Puis les Palestiniens regroupaient les athlètes israéliens et les gardaient en otage. On parlait alors de 20 ou 27 otages, il serait en fait 9, les autres athlètes israéliens se seraient échappés.
Le 5 septembre 1972, le monde occidental faisait soudainement connaissance avec le groupe armé palestinien Septembre Noir au cours des événements tragiques de la prise d'otages et de la fusillade au village olympique de Munich en Allemagne où se déroulait alors la 20e édition des Jeux Olympiques d'été. En préparant et en envoyant un commando de 8 hommes puissamment armés et bien entraînés, Septembre Noir entend faire payer à Israël son mépris des résolutions des Nations Unies qui ont condamné l'occupation des territoires palestiniens suite à la guerre des 6 jours, que nous avons déjà évoqué dans le numéro de mai de cette émission, et qu'Israël est censé rendre aux autorités palestiniennes. Mais l'État hébreu ignore cette résolution, fort de sa supériorité militaire et soutenu par les États-Unis du président Nixon, encore lui. Lorsque le commando, déguisé en sportif, entre dans le village olympique, personne ne voit rien venir. Lorsqu'ils enfoncent la porte des appartements de la délégation d'athlètes israéliens à 6h du matin, presque tous sont encore couchés. Un entraîneur de lutte et un haltérophile tentent de contenir les assaillants mais sont froidement abattus, tandis que certains athlètes se jettent par la fenêtre du premier étage pour fuir. Le commando prend vite le contrôle des lieux et ils retiennent finalement 11 athlètes en otage. Lorsque la police arrive, ils font connaître leurs revendications. Israël doit libérer immédiatement 234 prisonniers politiques palestiniens et l'Allemagne doit libérer les deux cerveaux Ulrike Meinhof et Andreas Bader de l'organisation d'extrême gauche Rote Armee Fraktion, connue en France sous le nom de la bande à Bader, et farouchement opposée à l'occupation de la Palestine. Pour faire comprendre qu'il ne plaisante pas, il balance depuis le balcon le corps sans vie de l'entraîneur de lutte Moshe Weinberg, abattu au début de l'assaut. Septembre Noir exige qu'un avion soit mis à leur disposition et prêt à décoller sur la base de Fürstenfeldbruck et exige 2 hélicoptères pour s'y rendre depuis le village olympique. En début de soirée, les autorités allemandes n'ont plus d'autre choix que d'obtempérer. Du moins en apparence, car en réalité, les pilotes et l'équipage de l'avion sont des policiers en déguisement qui ont pour tâche de maîtriser les membres du commando et de faire libérer les otages. Dans la précipitation, on recrute à la va-vite des tireurs du club de tir local pour faire office de tireurs d'élite. À 22h30, les hélicoptères atterrissent près du tarmac de la base aérienne, mais les Allemands, qui pensaient avoir affaire à 3 ou 4 commandos armés, se rendent alors compte qu'ils sont en fait 8. Ils sont en sous-nombre et n'ont aucune chance de mener à bien leur mission. Ils décident donc d'abandonner leur plan et de laisser l'avion vide. Les tireurs d'élite improvisés ne sont que 5, ils n'ont ni radio, ni lunettes, ni équipement de vision de nuit. Lorsque les Palestiniens quittent les hélicoptères et s'approchent de l'avion, ils constatent que celui-ci est vide et qu'ils sont tombés dans un piège. Furieux, ils retournent aux hélicoptères mais sont pris sous le feu des tireurs postés sur les toits. S'ensuit alors un échange de feu nourri qui dure plus d'une heure, au cours duquel 2 membres du commando sont tués. Mais les tireurs ne voient plus rien avec la nuit tombée et la situation est simplement chaotique. On tire dans tous les sens. Les renforts de police mettent 1h30 à arriver à cause des curieux qui se sont précipités en voiture pour assister au spectacle de la prise d'otage. Lorsqu'ils arrivent enfin, soutenus par des blindés, la situation tourne en leur faveur. Comprenant l'échec de l'évacuation, les Palestiniens tirent en rafale sur les otages qui sont attachés dans les hélicoptères, puis dégoupillent des grenades et les font exploser dans l'appareil. Les échanges de feu continuent encore un instant, puis les armes se taisent après 3 heures de combat féroce. 5 des 8 membres du commando sont tués, 3 sont arrêtés, les 11 athlètes israéliens ont tous été abattus. Un policier allemand a également été tué. Le gouvernement d'Israël est furieux envers l'OLP, qu'elle fait bombarder dès le lendemain en représailles, et aussi contre la RFA, qui s'est montrée incapable de répondre de manière adéquate à une telle prise d'otage. Lorsqu'un an plus tard, au cours d'une autre prise d'otage, les terroristes exigent la libération des membres du commando palestinien, les autorités allemandes obtempèrent, trop heureuses de se défaire de prisonniers sulfureux, ce qui provoque l'ire de la première ministre israélienne Golda Meir. Dans les années qui suivent, elle fera traquer un par un les hommes membres de Septembre Noir qu'elle a fait placer sur une liste d'hommes à abattre. Le Mossad, service secret israélien, exécutera 9 des 11 membres sur cette liste à Chypre, en France, en Italie et en Norvège, où le Mossad abattra à la sortie d'un restaurant, par erreur, un serveur marocain, jeune père de famille, qui avait le malheur de porter le même nom que l'un des membres de Septembre Noir. Décimé, Septembre Noir disparaît de fait et les quelques membres restant en vie se font discrets, très discrets, et disparaissent des radars à la fin des années 80. De leur deuxième album sorti en 1972, Toulouse Street. C'était The Doobie Brothers, excellent groupe américain de classic rock and folk formé autour de leur chanteur Tom Johnston. On écoutait Listen to the Music sur Classics Time Machine.
Des dizaines de victimes allongées, ensanglantées. Certaines ont dû être évacuées par hélicoptère. Des témoins hagards. Un véritable climat d'affolement. Dans ce quartier commerçant, les terroristes ont frappé peu avant 17h30, à une heure où les magasins sont particulièrement fréquentés. La cible des terroristes, Tati, fréquenté par une clientèle populaire, et ce mercredi surtout, des femmes et des enfants.
Le mercredi 17 septembre 1986 à 17h20, rue de Rennes, dans le 6e arrondissement de Paris, un engin explosif explose devant le grand magasin Tati en pleine heure de pointe. La bombe fait 7 morts, 55 blessés et cause la panique et la sidération. Ce n'est pourtant pas la première attaque terroriste sur le sol français depuis ces derniers mois. C'est en fait le 14e attentat que la capitale a connu depuis le 7 décembre 1985 où une bombe explose aux Galeries Lafayette. Celui de la rue de Rennes est le plus meurtrier. Le groupe qui à chaque fois revendique ces attaques se définit comme « Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient » et c'est en fait un bras de l'organisation libanaise chiite Hezbollah, très active contre Israël mais aussi contre l'Irak de Saddam Hussein lors de la guerre d'Iran... alors en guerre contre l'Iran chiite de l'ayatollah Khomeini. Et c'est précisément sur ce dernier point que l'organisation a décidé de frapper la France. Durant la guerre Iran-Irak, qui dura de 1979 à 1988, la France a activement soutenu l'Irak de Saddam Hussein contre, comme la plupart des puissances occidentales, effrayées par la politique islamique radicale de l'Iran. La France est le principal exportateur d'armes à l'Irak et contribue de fait au soutien du régime de Bagdad en dépit des nombreux crimes de guerre perpétués par les troupes de Saddam. Le dirigeant de cette branche du Hezbollah en France est Fouad Ali Saleh. Il n'est pas libanais ou iranien, mais français, né à Paris en 1958 de parents d'origine tunisienne. Sunnite, il s'est converti au chiitisme et après quelques séjours et études religieuses en Iran, il se radicalise et fait de l'Occident judéo-chrétien son ennemi et sa cible. Rentré en France, il obtient du Hezbollah dont il est membre un soutien logistique et financier considérable pour recruter une équipe et frapper la France. Il sera arrêté en mars 1987 avec quasiment tous les membres de son réseau alors qu'il préparait une troisième vague d'attentats. Dans les diverses planques, les policiers retrouvent des centaines de kilos d'explosifs qui laissèrent présager que ces attentats en préparation eussent été encore plus meurtriers que les précédents. Fouad Ali Saleh ainsi que Georges Ibrahim Abdallah et Anis Nakache, ses principaux lieutenants, écoperont tous de la prison à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 18 ans. Aujourd'hui en 2018, Ben Saleh et ses acolytes dorment toujours en prison, à l'isolement, et une demande de libération en 2007 a été rejetée.
Are you a doctor?
I'm a doctor.
I'm a doctor.
I'm a doctor.
I'm a doctor.
You can tell me I'm a doctor.
Et continuons notre voyage dans le temps en 1986, cette fois en musique, avec un titre phare de cette année par le britannique Peter Gabriel, ancien membre du groupe Genesis de Phil Collins, qui sortait à l'époque son cinquième album, So, et dont le single Sledgehammer fit un carton international. Sledgehammer, en français la masse, cette espèce de marteau de démolition, est un titre dont les paroles peuvent sembler pour le moins abstraites, mais en réalité, il suffit de bien tendre l'oreille, si vous comprenez bien l'anglais, pour se rendre compte que le message de cette chanson est assez clair et imagé. Une petite traduction vite fait des paroles nous donne « Tu pourrais avoir un train à vapeur rien que pour toi si tu prenais juste le temps d'allonger tes rails. Tu serais à bord d'un grand 8 qui monte et descend entre les virages. Tu pourrais être à bord d'une auto tamponneuse qui tamponne. On pourrait s'amuser sans fin si tu m'offrais ta corbeille à fruits. Comme une abeille à miel, je les butinerais car tes fruits sont les plus juteux qui soient. Tu n'as qu'à m'appeler, je vais monter en puissance. Tu vas sentir la force de ma masse qui s'abattra sur toi. » Bref, tout un programme, on ne peut être plus clair, il me semble. Je vous invite, si vous ne l'avez jamais vu, à regarder le clip qui est en soi une œuvre d'art complètement loufoque et où les images ne sont en fait que des centaines de photos collées en animation image par image, complètement délirantes, une orgie de couleurs et de symboles phalliques à peine déguisés, vraiment très bien réalisé pour l'époque. Vous écoutez Classics Time Machine sur Radio Sainte-Afrique, voici Peter Gabriel en 1986 avec Sledgehammer.
You
Ces photos que nous venons de recevoir de Santiago sont les tout premiers documents, les premiers témoignages du putsch militaire chilien. Ce sont ces soldats, le doigt sur la gâchette, qui ont renversé le gouvernement du président Allende. Ces tanks du général putschiste Ugarta ont occupé la place de la Constitution et ont tiré sur le palais présidentiel où s'était réfugié le président. Quelques instants plus tard, l'assaut fut donné par l'armée de terre qui devait découvrir sur un canapé le corps du président Allende qui s'était tué d'une balle dans la tête. Santiago a vécu hier une journée de violence dirigée par les quatre chefs d'état-major et appuyée par la police. L'armée chilienne a pris possession du pays en moins de 5 heures. La garde personnelle du président Allende, constituée par des jeunes militants de gauche, s'est battue durant plus d'une heure et demie contre les fantassins de l'armée de terre. La télévision, la radio sont tombées entre les mains des auteurs du coup d'État peu après que le président Allende le diffuse son dernier appel à la mobilisation de la classe ouvrière.
La última oportunidad es que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
Je vais vous parler maintenant du 11 septembre, mais pas le 11 septembre 2001, mais le 11 septembre 1973 au Chili, qui eut des conséquences tout aussi désastreuses sur le plan humain. Revenons tout d'abord en 1970. Le 4 novembre de cette année, le président fraîchement élu à la tête du pays se prénomme Salvador Allende, et c'est un socialiste, il a remporté les élections présidentielles de façon légale. C'est la première fois qu'un président de gauche est élu à la tête du pays, d'un pays, d'un continent ravagé par les dictatures sauvages et les coups d'État militaires. Les États-Unis soutiennent la plupart de ces régimes dictatoriaux, estimant qu'il vaut mieux une Amérique latine sous le joug des dictatures, mais contrôlée par Washington. Les USA n'ont toujours pas digéré l'installation à Cuba d'un régime communiste. Il ne voit donc pas du tout d'un bon œil l'installation d'Allende au Chili. Ce dernier met en place une politique sociale, augmente les salaires, nationalise les mines de cuivre du pays. Mais l'économie, relativement stable sous ses prédécesseurs, commence à sombrer et l'inflation explose en 2 ans. L'opposition sabote tant qu'elle peut les tentatives de reflouement de l'économie, d'autant qu'elle a le soutien de Washington. Néanmoins, Allende reste très populaire et il remporte début 1973 les élections législatives haut la main. Pour l'opposition, c'est un camouflet, elle comprend qu'elle ne parviendra pas à destituer Allende de façon légale, car le peuple est derrière lui. Les affaires les militaires soutenus activement par la CIA et le président Richard Nixon, encore lui, décident d'en finir avec le président Allende. Et le matin du 11 septembre 1973, les chars et les fantassins investissent la ville puis encerclent le palais présidentiel. Sommé de se rendre, Allende refuse de capituler et se retranche armé d'une Kalachnikov dans ses quartiers. L'aviation bombarde alors plus d'une demi-heure le palais puis les troupes au sol donnent l'assaut. En quelques heures, Allende et sa garde rapprochée sont entièrement cernés. Il passe un dernier message à la radio, puis peu après, se suicide. Le général des armées Augusto Pinochet, qui a mené ce coup d'État, prend ensuite le pouvoir et écrase férocement les partisans du régime. Toute personne soupçonnée de soutenir le parti Unidad Popular d'Allende est arrêtée, torturée et bien souvent exécutée. En quelques années, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui disparaîtront après avoir été enlevées par les forces armées du général Pinochet. Il se hissera à la hauteur des pires dictateurs du XXe siècle et sera protégé toute sa vie durant par les forces conservatrices du pays et par les USA. Il faudra attendre 1990 pour qu'il soit écarté du pouvoir, mais il restera cependant chef des armées jusqu'en 1998. Pinochet n'aura jamais à répondre des milliers de morts de son régime dictatorial. C'était le chanteur irlandais Gilbert O'Sullivan en 1973 avec Get Down.
Mort d'un dictateur déchu, Somoza assassiné.
Mesdames, messieurs, bonsoir. Un dictateur est mort tout à l'heure, mort comme il a vécu dans le sang. Anastasio Somoza avait 54 ans. Il a été assassiné cet après-midi à Asunción, la capitale du Paraguay. C'est lui qui, pendant près de 20 ans, a gouverné d'une main de fer le Nicaragua, avant de quitter le pouvoir il y a un an. Ces meurtriers ne lui ont laissé aucune chance. Un commando a entouré sa voiture et l'a entièrement détruit au bazooka. Le corps de l'ex-président a été complètement déchiqueté.
On a vu à l'instant que des dictateurs comme Pinochet ont pu commettre leur forfait sans jamais avoir à répondre de leurs crimes, mais dans certains cas, il arrive qu'une certaine justice les rattrape. C'est le cas notamment du dictateur nicaraguayen Anastasio Somoza, lui-même fils et petit-fils de dictateur. Depuis la capitale du Nicaragua, Managua, la famille règne sans partage sur ce petit état d'Amérique centrale depuis l'année 1937. Les Somoza sont corrompus, tyranniques, pillent les richesses de leur pays et oppriment le peuple sous un régime de terreur et de violence. Le tout bien sûr, comme toujours en Amérique latine, sous l'œil bienveillant des États-Unis. Comme le disait le secrétaire d'État aux affaires étrangères des USA, Henry Kissinger, « Somoza is a son of a bitch, but he's our son of a bitch ». Comprenez, Somoza est un fils de pute, mais c'est notre fils de pute. Mais le vent finit par tourner pour ce régime lorsqu'en 1979, la révolution sandiniste, d'inspiration marxiste, finit enfin, après des années de clandestinité, à chasser Somoza du pouvoir. Les sandinistes, nommés d'après Augusto Sandino, un rebelle qui dans les années 30 se battait pour la justice sociale et contre les dictatures, sont extrêmement populaires et leur chef, Daniel Ortega, commence alors une politique de progrès social, d'alphabétisation et de nationalisation des ressources pillées par le clan Somoza au profit des États-Unis. Somoza, qui a fui chez un autre dictateur au Paraguay, commence à comprendre qu'il ne reviendra jamais au Nicaragua tant qu'Ortega et les Sandinistes sont au pouvoir. Depuis sa résidence d'Asunción, il fomente avec les services du nouveau président américain Ronald Reagan, un anticommuniste jusqu'à la moelle, un retour en force. Conscient de ce danger, les Sandinistes envoient un commando au Paraguay qui, le 17 septembre 1980, ne lui laissera aucune chance de revenir dans son pays. Il détruit sa voiture au lance-roquettes après l'avoir criblé d'une centaine de balles. Malheureusement pour le peuple nicaraguayen, la mort de Somoza ne changera rien au destin tragique du pays. Alors que les espoirs apportés par la révolution se voient noyés dans une dérive autoritaire du régime sandiniste, des troupes formées par Washington et venant du Honduras voisin pour renverser Ortega plongent le pays dans 7 années de guerre civile qui détruit l'économie et appauvrit encore plus ses habitants. Comble de l'ironie, en 1990, c'est la candidate libérale Violeta Chamorro, soutenue par la Maison Blanche, qui remportera légalement les élections et mettra fin aux rêves sandinistes du Nicaragua. We'll be right back. Pour illustrer cette année 1980, c'était Blondie, le groupe de la magnifique égérie du punk Debbie Harry. Et oui, j'ai bien dit punk, car même si le style musical de Blondie ne laisse pas penser, étant un mélange de rock, de pop et de disco, c'est bel et bien entre autres Debbie Harry qui, à New York en 74, contribua à l'essor du mouvement punk avec sa clique d'artistes et de musiciens du club CBGB du quartier de Manhattan, dont sont sortis Patti Smith, The Talking Heads ou encore The Ramones. Respect donc à cette dame qui reste une de mes icônes préférées et de la culture américaine, et désolé de couper la chanson avant l'heure, mais nous sommes très en retard. Et sur ce, il est temps de conclure cette émission et de vous laisser sortir en douceur de la Classics Time Machine pour retourner vers l'année 2018. J'espère que le voyage vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur notre site radiosaintafrique.com ainsi que les précédentes émissions. Vous y trouverez les playlists et si vous le voulez, vous pouvez aussi nous laisser des commentaires. Votre avis nous intéresse. Cette émission a été réalisée, montée, mixée, écrite et présentée par le Dr M. C'est moi. Et heureusement qu'à la production et à la technique, il y a solidement amarré à sa console notre indispensable Clément aux manettes. Encore mille merci à lui de bosser en dehors des heures de bureau. Quant à moi, je vous retrouve mercredi 24 octobre, 20h, même endroit, même fréquence, pour un prochain numéro de Classics Time Machine. Et d'ici là, vous connaissez le dicton, restez classe.
Who's that? I'm the doctor.
No, you may be a doctor, but I am the doctor. The original, you might say.
I'll be back.